Rebonjour, donc nous allons reprendre cette journée sur l'identification et la surveillance. Après l'histoire ce matin, on va aborder des questions beaucoup plus contemporaines, puisqu'on va parler de ce qui se passe et de ce qui se fait aujourd'hui, et des différents enjeux des politiques ou des processus et des technologies d'identification et surveillance aujourd'hui. Donc on va commencer par une conférence de Aïché Séhin, qui est maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Paris et qui est directrice d'un groupe d'études et d'expertise sur la sécurité et les technologies. Et elle est donc spécialiste de l'analyse de ces politiques et technologies de sécurité, et notamment des concepts des politiques de sécurité. Et c'est ce dont elle va nous parler tout de suite. Donc je lui laisse la parole.
Merci beaucoup. Bonjour. Voilà, la thèse que je voudrais développer dans cette présentation sur identité, identification et surveillance à l'heure de la biométrie est la suivante. Les systèmes biométriques produisent un changement paradigmique au regard de l'identité en faisant du corps et des données personnelles les nouvelles sources d'identité et d'identification. Pour ce faire, je voudrais montrer comment les concepts d'identification, de surveillance et d'identité évoluent à l'heure de la biométrie et quelles conséquences on peut tirer du point de vue de vivre ensemble, en particulier du point de vue de la question de la confiance des uns aux autres, de la confiance des citoyens vis-à-vis des autorités et des institutions. Ma présentation sera donc conceptuelle et s'appuiera sur quelques exemples récents. Car je pense que, comme disait Emmanuel Kant, qu'une observation sans concept est vide, et qu'un concept sans observation est également vide. Donc mon intervention vient après les interventions de ce matin. Je ne rentrerai pas tout à fait dans les détails des fichiers, etc., mais soulever avec vous quelques problèmes conceptuels. Je voudrais aussi dire que les concepts dont je vais parler sont des concepts anciens. Cependant, ils prennent un sens différent selon le contexte où ils s'emploient. Et le contexte où ils s'emploient, c'est le contexte d'aujourd'hui d'incertitude, de fluidité et de l'invasion de la vie publique, privée et transnationale par les technologies de la sécurité. Donc, je parlerai des concepts situés. Peut-être que ça va faire une répétition par rapport à ce qui a été dit ce matin, mais je voudrais commencer par ce que j'entends par biométrie. Comme vous savez, biométrie a plusieurs définitions. Ici, j'aimerais mettre l'accent sur les systèmes biométriques et les présenter comme la collection informatique des mesures biologiques ou génétiques ou comportementales unique à un individu et leur analyse par des méthodes statistiques et mathématiques afin de vérifier et d'authentifier l'identité d'une personne et ou de lui attribuer une identité reconnaissable. Et comme vous le savez, quand on parle de la biométrie d'identification et de l'identification, on est obligé de faire la distinction entre deux concepts qui sont souvent reliés, le concept d'authentification et d'identification. Authentification est le processus de certification qui permet d'associer une identité à une personne qui prétend procéder à une action. Elle permet de vérifier que la personne qui prétend détenir une carte d'identité ou une carte d'entrée ou une carte d'accès et ou qui entreprend une action dans l'Internet est bien le titulaire de la carte ou l'auteur de l'échange en question. Donc c'est une identification entre un et un. Quant à l'identification, elle va un peu plus loin. C'est le processus d'assignation et d'attestation d'une identité reconnaissable à un individu. Elle se fait, comme vous le savez, de plusieurs façons, mais on pense d'abord à la façon administrative. Elle se fait de façon administrative par l'État et on appelle ça certification, mais aussi de façon relationnelle. Et je pense que ça, c'est l'aspect le plus important de l'identité que nous devons obtenir, que nous devons prendre en considération dans le débat de la biométrie. Donc, elle se fait de façon relationnelle par les rapports sociaux. Elle est donc à la fois procédurale et relationnelle. Dans le monde numérique, elle se fait par l'association de codes. On peut parler de code PIN ou de mots de passe, d'accès, etc. et des données personnelles. Globalement, on peut dire que c'est une identification entre 1 et N. Donc, je continue la liste. Je voudrais parler de ce que j'entends maintenant par surveillance. Car aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'identification et les processus d'identification et les processus de surveillance commencent à aller de pair, de plus en plus de pair, ou parfois de se mélanger. Alors, la surveillance, c'est aujourd'hui encore l'attention systématique portée aux données personnelles obtenues à travers l'observation des itinéraires, des interactions, de la mobilité et du corps de l'individu dans le but de gérer, de discipliner, de contrôler et de contrôler cet individu et de prévoir des futurs ou des possibles comportements à risque. Voilà. Dans cette configuration définitionnelle qui est néanmoins très située, que devient l'identité? Donc nous avons d'une part la biométrie, les systèmes biométriques qui sont des technologies de sécurité qui sont de plus en plus prisées et d'autre part qui sont aussi accompagnés des processus d'identification et de surveillance. Donc que devient l'identité? L'identité, comme vous le savez, est une préoccupation très très ancienne. Elle a toujours intrigué les philosophes, les sociologues, même si elle fut examinée sous des appellations différentes. La question classique qui a intrigué tout le monde depuis le début, disons, c'est de savoir si on peut reconnaître et figer l'identité une bonne fois pour toutes. On sait que, je ne vais pas entrer dans la philosophie, mais on sait que dès les pré-socratiques, tels que Parménide, la philosophie a été affectée par la question de la conciliation entre mêmeté et changement. Et puis ensuite, on sait que pour les uns, par exemple, comme Parménide, il est difficile de penser le changement. L'être est un continu éternel. Pour les autres, comme Héraclite, auteur du célèbre formule « On peut entrer deux fois dans le même fleuve », tout est en perpétuel mouvement. La question de savoir comment envisager l'identité du moi dans le temps et comment s'identifier et identifier l'autre ont toujours préoccupé les philosophes, les historiens et les sociologues. Je ne veux pas entrer dans les détails historiques puisque ça a été traité ce matin. En fait, comme vous le savez, l'identité est un concept très difficile à définir de façon synthétique. Elle englobe plusieurs éléments. Comme dit Erik Erikson, par exemple, elle est à la fois conscience et processus. Elle est à la fois moi ou le soi et processus. Elle est à la fois relationnelle. Du point de vue psychologique, elle constitue la subjectivité de l'individu. Du point de vue philosophique, elle est liée au lien permanent entre mêmeté et différence. Mais il y a beaucoup à dire, évidemment. Évidemment, et ça demandera des heures et des heures, mais je pense que pour ce qui nous concerne, la personne la pensée qui représente bien cette question d'identité est celle de Paul Ricoeur. Dans soi-même comme un autre, Paul Ricoeur distingue entre deux pôles de l'identité et cette distinction est tout à fait éclairante pour nous. Comme vous le savez, il voit l'identité à travers l'identité idem, l'identité mêmeté. Et si on se réfère à notre problématique d'aujourd'hui, l'identité idem, donc ce qui atteste ou reconnaît la mêmeté d'une personne, ça peut être les gènes, ça peut être les parties du corps, comme les parties inchangeables du corps, comme par exemple l'empreinte de la rétine, l'empreinte de l'iris, l'empreinte de la l'empreinte de la main, par exemple. Par contre, pour Paul Ricoeur, on ne peut pas se contenter de définir l'identité seulement à travers l'identité idem. Il faut penser à l'identité ipse, et qui est la définition du soi par rapport à soi et par rapport à l'autre, reconnu dans son altérité chère à Lévinas. Donc par là, Ricoeur nous invite à juste titre d'intégrer le rapport à l'autre, le relationnel et le sensible. Or, la biométrie, par les systèmes biométriques, disons, par leur focalisation sur l'identification de l'individu à travers les parties inchangeables du corps, réduisent l'identité à l'idem, sans un lien direct avec ipse. On peut dire que dans ce système d'identification, la société n'aura plus de rôle à jouer dans le processus d'identification, et l'identification d'un individu par un tiers ne sera plus possible, ou sera toujours possible évidemment, mais ne sera plus reconnue pour attester de son identité. Globalement, on peut indiquer son identité à travers quatre manières. Par exemple, premièrement, parce que nous possédons comme une carte, un badge, donc à travers une carte d'identité qui certifie notre appartenance à une collectivité, à une société ou à une nation. On peut aussi indiquer l'identité par ce que nous savons grâce, par exemple, à l'utilisation d'un identifiant personnalisé ou un code secret, code PIN. On peut être identifié par l'intermédiaire d'un tiers, par contre. Donc, c'est cet aspect qui est évacué par la biométrie. Et quatrième aspect, qui est très, très important, on peut être identifié par ce que nous faisons, par les relations que nous entretenons avec les autres, les sociétés et la société. Donc, la biométrie, comme je disais dans l'introduction, introduit un changement paradigmique. Ce n'est plus une identité assignée par certification, même si les éléments biométriques sont intégrés dans la puce de la carte d'identité. Ce n'est plus une identité représentée seulement par une carte, et la société n'aura plus de rôle à jouer dans le processus d'identification d'un individu. L'identification par l'intermédiaire d'un tiers semble être amenée à disparaître. C'est donc le corps et les parties inchangeables du corps qui sont la source d'identité. L'homme est défini par les parties inchangeables de son corps. Alors, quel est ce corps qui identifie dorénavant les individus? Il ne s'agit plus de la représentation du corps anatomique et médicalisé du 19e siècle, mais du corps comme information qui se transforme en un donné numérique. Je pense que c'est ça qui fait la transformation paradigmique dont je parlais, et donc qui est générée par la focalisation sur les parties du corps comme source d'identité. En cela, le corps est à la fois objectivé, réduit, donc ça veut dire réduite à des paramètres informatiques, et naturel, donc inaltérable. Et donc, dans les systèmes biométriques actuels et dans leur interconnexion avec les systèmes de surveillance, le corps est source d'information et générateur de flux de données doubles. La biométrie s'opère par l'abstraction des parties du corps et leur assise territoriale et leur réassemblage dans des bases de données sous forme de données doubles. Nous avons pas mal d'exemples à cet égard. Ça a été discuté ce matin, mais nous pouvons penser non seulement aux fichiers de police nationale, mais aux fichiers transnationaux et aux fichiers transnationalisé sur le plan global, par exemple au PNR, au Personal Name Register, des fichiers utilisés par les compagnies d'aviation, et j'en parlerai un petit peu en détail ultérieurement. Donc, cette transformation du corps en données et sa circulation comme données doubles affecte évidemment l'ontologie du corps qui, d'existence masse, devient flux d'informations. Ce processus s'accompagne également de la déterritorialisation et de la dématérialisation de l'identité ou de la carte d'identité, certes qui certifie cette identité. L'identité ne s'établit plus par une nomination par la puissance publique, mais se reconnaît sur le corps transformé en un code numérique. Tout cela, toute cette transformation ou tout ce processus nous incite à poser la question suivante. Est-ce que on peut considérer la biométrie donc transformée en une donnée comme ça, en une donnée informatique, comme une donnée personnelle au sens de la loi de 95, de la loi européenne de 95 par exemple? C'est une question qui a été d'actualité pendant longtemps et qui a généré pas mal de débats et d'interrogations. D'abord, je sais que c'est juste une parenthèse. Tout à l'heure, il va y avoir des juristes, dont Sylvia Preuss-Lecinot, qui vont parler plus en détail des données personnelles et de l'aspect juridique. Mais pour ce qui concerne mon propos, je fais juste une allusion à ce que c'est qu'une donnée personnelle très rapidement. C'est une information qui permet de vous identifier ou de vous reconnaître directement ou indirectement. Évidemment, nous connaissons des données personnelles très classiques comme le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse postale, l'adresse électronique, mais il y a d'autres données personnelles qui ont été créées à l'heure de la société de l'information et de l'informatique, comme l'adresse IP, l'adresse électronique, le numéro de sécurité sociale, le numéro de carte de crédit, ou alors l'empreinte digitale, l'ADN et la photo d'identité. Donc, est-ce que, par exemple, la photo d'identité qui est reconnue par l'OACI comme une donnée biométrique, mais c'est une photo d'identité spéciale, est-ce que c'est une donnée personnelle? Alors, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Encore une fois, les juristes reviendront sur cette question, mais je dirais que l'OACI a proposé de reconnaître ceci comme une donnée personnelle, et la CE l'a reconnu récemment, et les images captées par la vidéosurveillance ont fait également l'objet de discussions et pour savoir si c'était des données biométriques et personnelles ou pas. Et à la fin, encore une fois, Sylvia Preuss-Lecinot ira beaucoup plus en détail, la CEDH a dit oui en refusant au Royaume-Uni le fait de divulguer un enregistrement vidéo de quelqu'un qui voulait se suicider. Donc, nous sommes dans un contexte où on va se propager un système d'identification à partir de l'empreinte des parties non changeables du corps qui se transforme en données personnelles. En ce qui concerne les données personnelles, je dirais que en fait on va se propager deux types de données personnelles en dehors des données personnelles classiques dont je disais tout à l'heure. Donc il s'agit dans un premier temps des données biométriques et aussi dans un deuxième temps des données personnelles créées à partir de la narration de l'intime et du relationnel sur l'Internet. J'introduis l'élément Internet qui est fondamental dans la création de l'identité digitale, car elle permet de produire une nouvelle type d'identité entre l'interaction que nous avons avec elle. Ceci se fait sur plusieurs niveaux, mais j'en dégagerai deux ici. Au niveau de ce qu'on appelle le e-gouvernement, c'est-à-dire l'utilisation de l'information digitale et des technologies de communication dans l'espace public et l'espace des services par le gouvernement et les citoyens, et dans un deuxième niveau, sur les blogs et les sites, sur Internet bien sûr, sur les blogs et les sites comme Facebook, où circulent des informations de l'intime. La somme de ces informations crée ce qu'on appelle une identité digitale. Or, le problème, c'est que ces derniers sont des données situées, c'est-à-dire des données qui sont narrées ou qui sont avancées, qui sont publicisées dans des situations spécifiques et dans des contextes spécifiques d'échanges, d'amitié ou de contacts. Ou d'achat, etc. Et donc, ces données, normalement, ne doivent être valides que dans le contexte particulier où ils sont, où elles sont créées. Le problème que l'on vit aujourd'hui, c'est la combinaison de plusieurs données situées et leur extraction du contexte, leur échange, voire même leur vente, et ce qui viole notre droit à la protection de la vie privée ou privacy, si je puis me permettre d'utiliser le mot anglais. Cette évolution, la description de cette évolution me permet de faire un lien entre identification et surveillance. Comme je disais, la surveillance, c'est la collection et le traitement des données à des fins d'anticipation, de prévention et de préemption de futurs risques. Et en fait, je pense que la question que nous devons soulever ici et qui a été un petit peu soulevée tout à l'heure est que nous arrivons nous sommes dans un contexte où toute information, toutes sortes d'informations peut devenir source de surveillance. Il ne s'agit pas seulement de l'information biométrique, il ne s'agit pas seulement de la donnée personnelle au sens classique, mais toute information collectée par des acteurs publics, bien sûr, mais aussi privés et transnationaux sur la vie, l'itinéraire, les relations, les achats, les goûts, même la lecture des personnes. Donc, nous vivons plutôt dans un monde où notre identité ou notre identification et surveillance se fait à la fois par des acteurs publics, mais aussi par des acteurs privés transnationaux dont nous ne savons même pas l'existence. Alors, à cet égard, on peut se référer évidemment à l'exemple du PNR. Ce sont des fichiers informatiques qui collectent et qui gardent la trace de toutes les informations que nous donnons aux agences de voyage quand nous réservons un billet d'avion ou un billet de train. Il ne s'agit pas d'une opération anodine quand on voit ce qui est derrière. D'abord, il faudrait rappeler que il y a 4 compagnies privées dans le monde qui s'occupent de la collecte et de la conservation de ces données et de leur échange et de leur envoi aux autorités qui le leur demandent dont en particulier les autorités américaines de Homeland Security Department. Donc, chaque fois que nous faisons une réservation sur Internet, par exemple, ou dans une agence de voyage, nos données personnelles les plus classiques, mais aussi les informations que nous rentrons dans ce processus de réservation, sont collectées, sont transformées, sont standardisées, sont conservés, et en même temps il y a des profils qui sont créés à partir de ces données sur notre capacité à devenir une personne à risque ou pas. Alors, je voudrais vous citer un dernier exemple. Peut-être que vous êtes au courant de ce qui de ce système qui vient d'être mise en service très très récemment. Peut-être que vous êtes au courant. C'est une nouvelle procédure d'autorisation de voyage pour aller aux États-Unis qui a été instaurée le 12 janvier 2009. Cette procédure s'appelle ESTA, Electronic System for Travel Authorization. Ce système concerne les ressortissants des 22 pays bénéficiaires du programme d'exemption de visa, dont la France, auxquels s'ajoutent 8 pays asiatiques. Désormais, il faudra, avant d'embarquer pour un voyage, pas avant d'embarquer dans un avion, mais avant d'embarquer pour un voyage à destination des États-Unis, ou avec un transit aux États-Unis, obtenir une autorisation de voyage à ESTA auprès du Department of Homeland Security. Il faudrait, pour ce faire, donc avant même que nous achetions nos billets, il faudrait rentrer les informations sur Internet. Ça se fait uniquement sur Internet. Donc, communiquer son identité, nom, date de naissance, numéro et référence de passeport, et fournir les informations concernant le voyage, le nom de la compagnie aérienne, le nom du vol, l'adresse aux États-Unis et le motif du voyage et peut-être d'autres questions. C'est exactement, ou peut-être un peu plus détaillé, la fiche qu'il faudrait remplir avant d'entrer aux États-Unis, mais une fois qu'on est dans l'avion. Maintenant, il faudrait remplir cette fiche électroniquement avant d'acheter son billet et attendre la réponse du Department of Homeland Security. Et la réponse peut être quasi immédiate, donc ça veut dire que l'autorisation est accordée. La réponse peut attendre à ce moment-là, ça veut dire que l'autorisation est en instance. La réponse peut être refusée. Et donc, nous voyons ici un bel exemple du profilage de l'individu dans un contexte anodin. Ce n'est pas un contexte politique ni un contexte très très de quelque chose d'exceptionnel. C'est un contexte de voyage. Avant même de pouvoir voyager, il faudrait demander cette autorisation. Ce n'est pas une autorisation simple, c'est une profiling, c'est-à-dire nous sommes profilés et en fonction du risque que nous présentons, évidemment. Et nous ne sommes pas considérés comme des personnes présentant un risque, nous sommes autorisés à aller aux États-Unis. Alors, j'ai remarqué un autre point dans ce site qui est de grand intérêt, car les autorités américaines soulignent qu'il n'y a aucune expectation de privacy, de la protection de la vie privée quand nous utilisons ce système. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas contrôler les données personnelles et les informations que nous fournissons. Nous ne pouvons pas savoir où elles vont. Nous ne saurons pas qu'est-ce qu'elles deviennent et comment le profiling est établi. Nous pouvons juste les réactualiser si on voudrait repartir, on voudrait réorganiser un voyage aux États-Unis dans les 2 ans qui suivent, dans le mois qui suit, et ces autorisations sont valables pour 2 ans. Donc ça crée un grave, ça soulève un grave problème de confiance et de, évidemment, confiance sur le plan des relations internationales, confiance aux voyageurs et aussi une grande entrave à la liberté de circulation. En fait, on voit bien que tout ce système donc d'identification, de surveillance qui se met en place, c'est évidemment nous avons l'impression que ce sont des phénomènes nouveaux, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ce matin, il y a une historicité de ces événements. Et déjà, Foucault, dans ses écrits, en avait un petit peu parlé. Et là, je pense qu'on retrouve ici son analyse sur les technologies de sécurité, lesquelles répondent, selon lui, sur des statistiques, des mises en service, d'événements probables, les regroupements, des comparaisons, des calculs de coûts, et qui tous participent au traitement de l'aléatoire. Je pense, en me référant aux travaux du philosophe et du sociologue Sigmund Bauman, que justement l'aléatoire représente bien ou caractérise bien la société dans laquelle nous vivons, et l'aléatoire donc qui est généré par beaucoup de choses, donc on peut discuter des heures et des heures, mais prendre par la globalisation, la transnationalisation, la multiplication des identités, la société virtuelle, etc., etc. Mais on pourrait dire que les technologies de sécurité qui se propagent et qui s'appuient sur les données biométriques et les données personnelles, donc participent à ce traitement de l'aléatoire, participent à ce traitement de l'incertain, et c'est cette incertitude qui devient l'horizon dans lequel s'inscrivent ces technologies. Donc ces évolutions représentent, on peut dire, une érosion de la confiance dans les sociétés contemporaines. Et évidemment, quand on dit confiance, il faudrait ne pas oublier que c'est un concept très très difficile à définir et même à saisir. C'est un concept mouvant. Certains comme Luhmann diront que c'est un moyen de réduire la complexité sociale et souvent de façon irrationnelle. C'est prévu pour gérer des situations de déficit d'information ou de connaissances. Ou d'autres comme Coleman vont dire que la confiance est un comportement rationnel, et la confiance c'est ce qui nous pousse à coopérer avec les autres et les institutions. Mais je pense que en philosophie et en sécurité, il y a un autre concept qui est beaucoup plus pertinent pour situer toute cette question, c'est le concept de la sécurité ontologique, c'est-à-dire le sentiment de sécurité en la permanence, la continuité et la reconnaissance d'un environnement, d'une relation, ou même d'une connaissance ou d'une idée. Et on a l'impression que on vit dans un moment de crise de sécurité ontologique, d'où le recours à des technologies de certitude, comme les technologies des technologies biométriques ou les technologies de surveillance. Alors, avant de conclure, je voudrais soulever une question qui est évidemment comment analyser davantage ou quelles questions poser suite à ce que je viens de décrire. Évidemment, on devrait s'interroger sur la perméabilité des sociétés aux technologies de sécurité et sur la question d'acceptabilité. La question d'acceptabilité est aussi difficile à exposer en peu de temps, car c'est une notion relative qui dépend des contextes, des cultures, des cultures politiques, des modes d'information, des moyens d'information. Et donc, ici, dans notre problématique, elle est évidemment liée au concept de la protection de la vie privée. Peut-être qu'on reviendra sur cette question dans les débats et discussions, mais la vie privée devient de plus en plus la vie intime ou la présentation ou la protection de la vie intime. Alors, la question de l'acceptabilité est très très difficile à saisir. Néanmoins, il y a des études qui sont faites et qui continuent à être faites. Et j'ai eu l'occasion de participer à une de ces études menées par l'université Queen's University au Canada. Ça a été une étude qui examinait l'attitude des citoyens de plusieurs pays, dont la France, les États-Unis, le Mexique, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Hongrie et d'autres, aux technologies de sécurité. Alors, je vous donne juste quelques données, quelques conclusions de la France. Cette étude a été publiée sous la direction du sociologue David Lyon, qui travaille sur les questions de surveillance et d'identification. Quand on prend les Français, jusqu'à l'adoption du passeport biométrique, les Français n'étaient pas très nombreux à connaître la biométrie comme moyen d'identification. On parlait de la biométrie, mais comme un moyen d'identification policière, mais pas du tout comme un moyen d'identification des individus. Les Français se montrent plus connaisseurs du GPS, par exemple, à 54%, contrairement à 24% de la biométrie, mais c'était avant l'adoption du passeport biométrique. Contrairement à ce que c'est quelque chose qui ne fait pas plaire aux autorités de la CNIL, aux gens de la CNIL, mais les Français ne connaissent pas la législation de la protection des données, par exemple. Et ils font par contre confiance à l'État pour les protéger et ne connaissent pas très très bien l'existence de la CNIL. Les Français apparaissent comme ne pas trouver les lois sécuritaires et les mesures de surveillance intrusives. Seulement 41% ont pensé que ces mesures pouvaient devenir intrusives. Évidemment, pour des raisons historiques, ils sont favorables à la carte d'identité. Donc, on voit que l'acceptabilité est une question très relative, très mouvante. Ce genre d'études, d'enquêtes ne donne l'image que d'un moment. C'est évolutif, mais cependant, ça permet de montrer un petit peu les phases par lesquelles les sociétés passent. Donc, en conclusion, moi, je voudrais terminer en soulevant quelques questions qui seront peut-être débattues après dans le débat qui va suivre ou ailleurs. Quel est l'impact des systèmes biométriques en tant que technologie de sécurité? Dans les technologies de sécurité, j'intègre les technologies d'identification et de surveillance. J'ai identifié trois domaines, mais évidemment, on peut élargir la question. La police, sur le travail des policiers. Quand je dis la police, évidemment, la police est composée de plusieurs organes policiers, institutions policières, la police, les policiers et les gendarmes. Quel est le travail des policiers au quotidien dans les commissariats, mais aussi dans les aéroports, les gares, ou alors dans les centres de traitement des informations? Donc, quel est l'impact de la biométrie sur le travail des policiers. Quel est l'impact sur l'organisation des rapports au sein même de la police ou des agences de sécurité? Une autre question sur laquelle je travaille, mais dont je n'ai pas vraiment une réponse très très claire, quel est l'impact de la biométrie sur l'antiterrorisme? On voit bien que dans beaucoup de rapports et aussi de lois, de projets de loi, la biométrie est strictement liée à l'antiterrorisme, donc proposée comme un modèle, comme un moyen. Et quelle est l'efficacité? Donc c'est une question ouverte. Un autre domaine sur lequel je souhaiterais aussi voir cette question, c'est dans les rapports sociaux. Et quelle est l'influence des technologies de sécurité sur la confiance des individus les uns envers les autres, sur le vivre ensemble, sur la confiance vis-à-vis des systèmes informatiques et de l'e-gouvernement qui se développe de plus en plus? Et enfin, quel est l'impact sur les libertés et les droits fondamentaux, en particulier sur le droit à la protection de l'intimité ou de l'intime, je dirais l'intime, comment protéger l'information personnelle, comment être maître de l'information personnelle, comment savoir où va l'information personnelle et quelle est la confiance des individus vis-à-vis des institutions de la protection des données et ou d'autres institutions, que ce soit au niveau européen ou au niveau global. Voilà, je vous remercie.
Juste quelques questions, une ou deux questions, avant de commencer la table ronde, si vous avez des questions.
Merci. Merci Aïché de ta conférence. Comme toujours, elles sont brillantes. Mais j'avais une petite question un peu méthodologique à te poser. C'est que tu sembles limiter la question quels enjeux pour notre démocratie à la question de l'intimité. Le reste, tu l'abandonnerais à la police, à l'antiterrorisme et à des rapports sociaux numérisés sous voie de contrôle. Mais est-ce que l'expression publique n'est pas aussi une des expressions qui devrait rester libre, sans forcément ayant de rapport à une numérisation à vocation coactive ou coercitive? Voilà.
Merci beaucoup pour cette question pertinente. Évidemment, dans la précipitation de la rapidité, il semblait que je limitais la question de la démocratie à la question de l'intime ou de l'intimité. Évidemment, je suis d'accord avec Gabriel Périès. Je pense qu'il faut même la pousser, évidemment, en dehors des cadres qui sont instaurés par ces systèmes, à la libération de l'expression publique par n'importe quel moyen, que ce soit l'écriture ou la voix, mais aussi prévoir des espèces de transgressions de ces limites. Alors la question, c'est comment transgresser, parce que il me semble que la démocratie est aussi ça, comment avoir la liberté de transgresser, évidemment sans entraver la liberté de l'autre, comment pouvoir s'exprimer, comment pouvoir s'identifier et surtout comment pouvoir s'identifier et comment pouvoir identifier l'autre, ne pas refuser l'émergence de multiples formes d'identité, et pourquoi être obligé de reconnaître l'imposition d'une certaine identité à l'autre. Je pense que ce sont des questions qui sont liées à la question que tu as soulevée. Elle est très vaste, mais je suis d'accord sur le fond avec la critique.